Extrait numéro 22, chapitre 28, autre légende de la Bastille moscovite. Nous avons dit qu'en dehors des 5 enfants à peu près légitimes que l'impératrice Élisabeth avait eus de Razoumovski, elle en avait mis au jour 4 autres. L'un de ces 4 autres enfants était la princesse Tarakanov. Ne souriez pas à ce nom bizarre. La pauvre princesse a fini d'une si triste fin que vous regretteriez votre sourire. Elle avait 20 ans, elle était belle, elle était libre, elle jouissait d'une fortune assurée. Toute jeune, on l'avait transportée de Saint-Pétersbourg à Florence. Là, elle avait grandi, pauvre fleur, comme une plante généreuse du Nord transportée sous le soleil béni des Michel-Ange et des Raphaël. Elle était la reine des fêtes de Florence, de Pise et de Livourne. Rien n'était reconnu ni officiel en elle, mais ce mystère qui laissait entrevoir une naissance impériale augmentait encore le charme qui l'enveloppait comme un de ces nuages dont s'environnaient les anciennes déesses quand elles ne voulaient point complètement apparaître aux mortels. Deux personnes la devinèrent cependant, l'une pour l'ambition, l'autre pour la haine, Charles Radziwill et Grégoire Orloff. Charles Radziwill, palatin de Vilna, ennemi acharné des Russes, rival des Czartoryski, nommé en 1762 gouverneur de la Lituanie par Auguste III de Saxe, s'était posé comme le concurrent de Poniatowski au trône de Pologne. Mais son ambition allait plus loin. Il se souvenait de l'ancienne grandeur de la Pologne quand elle donnait des rois à la Bohême et à la Hongrie, quand elle acquérait la moitié de la Prusse occidentale avec suzeraineté sur la Prusse orientale, laquelle joignait à cette suzeraineté celle de la Courlande, lorsqu'elle réunissait à elle la Livonie, enfin lorsqu'elle prenait Moscou. Moscou, pris en 1611, pouvait l'être encore en 1764 ou 1768. Alors Radziwill mettait sur sa tête la couronne des Monomaques et des Jagellon. C'était un grand projet, vous le voyez. Mais comme Charles Radziwill était un aussi grand politique qu'un bon soldat, il avait encore rêvé autre chose, c'était de se faire aimer de la princesse Tarakanov, de devenir son époux, et Moscou pris, de s'appuyer sur cette alliance avec la fille d'Élisabeth, dont on faisait publiquement reconnaître la naissance, pour faciliter l'établissement de son pouvoir sur la Russie. La pauvre princesse ignorait tous ses projets d'ambition. Elle ne voyait qu'un palatin illustre, encore jeune, beau de visage, élégant de manière. Elle accueillit des hommages. Avec une sévérité excessive, elle n'eût pas été la fille de sa mère. Et le bruit se répandit que Charles Radziwill, palatin de Vilna, allait épouser la princesse Tarakanov, fille naturelle d'Élisabeth. Ce bruit arriva bientôt à la cour de Russie. Catherine en tressaillit, car elle devina les projets du prince Charles Radziwill. Elle avait beau renverser les obstacles renaissaient sous ses pas. Elle venait de laisser étrangler Pierre III, elle venait de laisser assassiner le jeune Ivan, et voilà qu'une fatalité lui créait en Italie une prétendante à laquelle elle n'avait jamais songé. Si c'eût été en Russie encore, à Ropcha ou à Schlüsselbourg, là où elle pouvait étendre la main, mais en Italie, à Florence, dans les états du grand-duc. Elle se confia à ses bons amis les Orloff. Les Orloff n'étaient jamais embarrassés. Catherine laisserait transpirer son projet de nommer Stanislas Poniatowski roi de Pologne. Ce projet attirerait à Varsovie Charles Radziwill, qui laisserait pendant ce temps la belle princesse sans défense. Quant à Orloff, voici ce qu'il ferait. Il prendrait 3 vaisseaux et s'en irait en Italie. Le but ostensible de son voyage serait d'acheter des tableaux, des statues, des bijoux précieux et de ramener les artistes. Le but caché se révélerait de lui-même et quand il serait temps. Olof partit. Son vaisseau était lesté d'or. La navigation fut heureuse. Il doubla sans accident le cap Finistère, il traversa le golfe de Gascogne, le détroit de Gibraltar et vint jeter l'ancre dans le port de Livourne. Dieu regardait d'un autre côté. C'était au mois de juillet. Tout ce qu'il y avait de gentilshommes élégants et de femmes à la mode en Toscane était venu respirer les brises de la Méditerranée et prendre les bains de mer à Livourne. L'arrivée de Grégoire Orloff, de l'homme qui avait pris la part principale à la Révolution de 1762, l'amant en titre de Catherine, éveilla, comme on peut le penser, la curiosité. Il y avait bien sur le nom la tache de sang de Ropchat, mais c'était Alexis et non Orloff qui avait eu avec Pierre III cette malheureuse contestation d'ivrogne qui avait si mal tourné pour le pauvre empereur. Puis un crime qui a si bien réussi n'est presque plus un crime. Quand Dieu a permis, pourquoi les hommes ne pardonneraient-ils pas? Enfin, les peintres vous diront qu'un point rouge fait admirablement dans le paysage. Il y avait un point rouge dans le paysage de Grégoire Orloff, et voilà tout. Il fut donc reçu, choyé, caressé, fêté. Il était beau, grand, jeune, vigoureux. Il tordait comme Porthos des barres de fer, roulait comme Auguste de Saxe des plats d'argent,